Merci beaucoup, Jérémy. Je suis très heureux de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Très heureux à plusieurs titres. Tout d'abord, je connais en tant qu'aumônier auprès des groupes bibliques universitaires en banlieue sud-ouest, je connais un certain nombre d'étudiants ici, donc ça me fait plaisir de les revoir. Ça me fait plaisir de revoir aussi Mamie et Nyarinsu, avec qui j'ai étudié pendant plusieurs années à l'Institut biblique de Nogent. Et également parce que cette église, c'était mon église il y a très longtemps. Donc les plus anciens d'entre vous, peut-être s'en rappellent, mais je ne m'attends pas à ce que vous vous rappeliez de moi. Entre 2000 et 2002, j'étais étudiant en classe préparatoire à Versailles et je venais à l'église ici chaque semaine. Donc à l'époque, je ne m'attendais pas à ce qu'un jour je me retrouve de ce côté-ci du pupitre. Donc je vous propose de réfléchir sur l'évangile selon Luc, chapitre 16. À partir du verset 19. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Évangile selon Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre, la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et je vais le lire dans la traduction du Semeur. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, très loin, Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » Dans ce cas, dit alors le riche, « Je t'en conjure, père !» Envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pour pouvoir suivre ce que je vais dire et aussi pour vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi. Alors je vous prie d'excuser par avance parce que je risque de tousser un peu beaucoup. Je sors d'une bronchite. Je vais falloir la grâce du Seigneur pour que ça, je ne tousse pas trop pendant la prédication et que ça ne m'empêche pas trop d'entendre. J'aurais une question pour vous ce matin. Quelle est la personne la plus riche à laquelle vous ayez déjà serré la main? Comment?
Shakira.
Est-ce qu'il est riche?
Oui.
Ouais, ça peut être un ancien président de la République. C'est peut-être, je sais pas, le PDG de votre entreprise. Peut-être un lointain cousin dont la famille a fait fortune. Mais en réalité, nous nous trompons quand nous pensons de cette manière. Quand nous pensons à des personnes lointaines. Parce que tous les dimanches, si nous fréquentons une église, tous les dimanches, nous serrons la main ou faisons la bise aux personnes les plus riches de la planète. Aux personnes les plus riches en devenir, les plus riches en espérance. Si l'on en croit le texte qu'on étudie là. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Luc, donc un des livres de la Bible qui raconte la vie de Jésus, et que vous avez sans doute déjà lu, et si c'est pas encore le cas, si vous avez encore jamais lu l'Évangile selon Luc en entier, je vous invite à le faire cette semaine, c'est une bonne lecture dans le RER. Et justement, ce texte, Jésus venait de discuter avec des juifs très religieux, des pharisiens. Et là, notre texte, c'est la suite. Alors, on va relire, pour avoir un peu le contexte, quelques phrases de l'échange entre Jésus et ces personnes très religieuses qui s'opposaient à lui. Ça permettra de remettre notre texte dans son contexte. Donc, on va juste relire les versets 13 et 15, 13 à 15. Jésus dit « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit « Vous, vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. » Le thème global de ce chapitre 16, c'est le danger qu'il y a à laisser Dieu de côté, à se laisser détourner de Dieu, d'une manière ou d'une autre, par le fait d'être trop attaché aux choses matérielles, trop attaché aux richesses, ou de se laisser détourner de Dieu par une mauvaise application, une mauvaise compréhension de la loi de Dieu. Bref, de se laisser détourner de Dieu par un trop grand amour pour d'autres choses que Dieu, et qui font que Dieu ne serait pas une priorité dans notre vie quotidienne. Les versets 19 à 31 restent dans cette idée, et il nous encourage à agir, à vivre comme Dieu veut, maintenant. Et on verra ça en deux temps. Ne nous trompons pas de vie. Écoutons le Dieu de la vie. Ne nous trompons pas de vie. Écoutons le Dieu de la vie. Ne nous trompons pas de vie. Alors cette petite histoire que nous étudions, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Enfin, l'histoire est facile à comprendre, avec voilà, un riche, un pauvre. Mais le sens de l'histoire, ça c'est autre chose. C'est une parabole, une histoire inventée pour illustrer un enseignement. Et en général, quand Jésus utilisait des paraboles, et il le faisait très souvent, les histoires qu'il inventait, elles étaient basées sur des choses de la vie quotidienne. Une pièce d'argent qu'on perd dans sa maison, un gérant qui vole son patron, un agriculteur qui doit se débarrasser de la mauvaise herbe dans son champ. Bref, des petites histoires faciles à comprendre, qui permettaient aux gens de s'identifier plus facilement au message que Jésus voulait transmettre. Et là, on a une parabole qui est un peu atypique. Elle démarre sur une situation d'injustice. Un pauvre, un riche, énorme injustice sociale. Donc une situation d'injustice, malheureusement assez classique. Donc jusque-là, bon, ça va. C'est bien la vie quotidienne que les gens connaissent. Mais la parabole se termine dans un lieu qui est beaucoup moins connu. La mort. La mort, le principe, c'est qu'une fois qu'on y est, on n'en revient pas pour raconter aux autres comment ça s'est passé. Et c'est une des choses qui rendent ce texte un peu difficile à interpréter. Est-ce que c'est une histoire qui est là pour décrire la vie après la mort, pour dévoiler en détail ce qui se passe après la mort? Ou est-ce que c'est une histoire inventée comme une autre, qui se base plutôt sur ce que les gens qui écoutaient Jésus il y a 2000 ans pensaient de la mort? Il y avait un homme riche. Il était une fois dans une forêt lointaine. À titre personnel, et pour tout un tas de raisons, je pense que Jésus a simplement surfé sur les clichés de son époque. Par exemple, l'idée qu'après la mort, les bons vont auprès d'Abraham, auprès du fondateur du peuple d'Israël, c'était une idée très à la mode chez les religieux de son époque, mais dans l'Ancien Testament, on ne retrouve pas trop cette idée. Un peu comme aujourd'hui Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être ces histoires qui démarrent. Un homme meurt, il se retrouve devant Saint-Pierre qui lui dit, je ne sais pas si vous connaissez peut-être ces petites historiettes, ces petites blagues, et ainsi de suite. Bon, voilà, ils vont auprès du père Abraham, fondateur de leur peuple. Ce qui se passe après la mort, la Bible en parle un peu, parce que c'est important, vu que c'est notre avenir inéluctable, Mais en général, les auteurs de la Bible utilisent simplement des métaphores, des images. Il n'y a jamais de description très précise sur ce qui se passera, sur le long terme, après la mort. Parce que les auteurs de la Bible se sont intéressés à la mort et à l'après-mort, surtout pour nous amener à réfléchir à notre vie présente, pour nous avertir, pour nous amener à avoir une perspective différente sur la vie, mais pas pour que nous perdions notre temps à faire des suppositions sur ce qui se passera après la mort. Pour Dieu, ce qui est important, c'est comment nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est cela qui détermine où nous irons après la mort. Ceci étant dit, regardons un peu plus en détail cette histoire surprenante. Donc on a un riche et un pauvre. On voit dans les versets 19, le riche vit comme beaucoup de riches, de beaux vêtements, une belle maison, de la bonne bouffe. Il profite de la vie, il se préoccupe que de lui-même. Il n'a pas de nom, c'est juste le riche. On a un pauvre, verset 20, qui s'abrite devant le portail de la villa du riche. Il n'a rien, il est malade, il est maltraité. Personne ne s'occupe de lui, à part les chiens errants du coin. Et pourtant, pour Jésus, ce pauvre est un être humain qui a autant de valeur qu'un autre. Il a même une identité. Il a un prénom. Alors, c'est un prénom certes banal. C'était dans le top 5 des prénoms masculins les plus courants chez les juifs de l'époque. Mais Jésus n'a pas choisi ce prénom n'importe comment pour le donner aux pauvres de sa parabole. Lazare, Eléazar en hébreu, ça veut dire « Dieu est venu en aide ». Dieu est venu en aide. Et on voit dans la suite de l'histoire que c'est effectivement ce qui se passe. Le riche qui possède la maison devant laquelle Lazare s'abritait n'avait jamais rien fait pour l'aider. Mais à la fin, Dieu est venu en aide à Lazare. Verset 22-23, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Changement de décor. On arrive dans l'après-mort. Avec le riche qui est dans un endroit qui ressemble à l'enfer, et Lazare qui est dans un endroit qui ressemble, entre guillemets, au paradis. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Lazare est dans un endroit sympathique alors que le riche est dans un endroit horrible? Dans la culture de l'époque, il y avait beaucoup de gens, et en particulier des pharisiens, qui considéraient que si on était riche, c'était qu'on était béni par Dieu. Qu'on était récompensé par Dieu parce qu'on avait fait des choses bien. Alors selon cette logique, le riche aurait dû être du bon côté, avec Lazare et Abraham. Mais non, Jésus a renversé les clichés, comme il le faisait si souvent. Verset 24. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi !» On voit donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. » Alors, je tiens à rassurer les personnes qui ont des comptes bancaires bien garnis. En soi, la richesse n'est pas un problème. Toute la question, c'est ce qu'on en fait. Et aussi et surtout, quel impact elle a sur nous. Dans la Bible, on a des récits, des histoires de plusieurs personnes très riches qui avaient une relation absolument magnifique avec Dieu, à commencer par Abraham lui-même, dont il est question dans le texte. Abraham, dont il est écrit dans le livre de la Genèse, qu'il possédait de très grands troupeaux et des centaines de serviteurs. Sans doute un des personnages les plus riches de la Bible. Et c'est lui qui accueille Lazare dans l'endroit de félicité, dans, entre guillemets, le paradis. Quoi. Quand dans notre histoire, Jésus a fait dire à Abraham, au verset 25, « Souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui dans ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. » Il n'est pas en train de dire que pour passer l'éternité avec Dieu, il faut être pauvre, absolument. Sinon, nous, en Occident, on est mal barré. parce que par rapport au reste de la planète, on est quand même sacrément privilégié. Ce que Jésus veut mettre en avant, c'est simplement le contraste entre la situation du riche et la situation de Lazare. Le riche avait eu tout ce qu'il désirait pendant sa vie terrestre, mais il avait laissé de côté les choses importantes, et maintenant qu'il est mort, il n'a plus rien. Alors que Lazare n'avait rien dans sa vie terrestre, mais maintenant qu'il est mort, il a tout. Il a le bonheur total. L'injustice sociale est éliminée, renversée. Mais quand on lit la suite du texte, on comprend que cette parabole ne visait pas à dénoncer les injustices sociales. Alors bon, ok, peut-être un peu, mais comme objectif secondaire. Mais je pense que le problème qui était visé là par Jésus était beaucoup plus profond que cela. Alors je ne dis pas que les injustices sociales, il ne faut pas s'en préoccuper. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, les prophètes, les porte-paroles de Dieu, ont beaucoup dénoncé les injustices sociales. Et Jésus l'a fait aussi. Beaucoup. Il ne portait pas de gilet jaune, mais il a dénoncé les injustices de son époque et de toutes les époques. Mais avec cette parabole-là, Jésus avait un autre objectif. Verset 27. Dans ce cas, dit alors le riche, « Je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, qu'ils les écoutent. On comprend mieux le cœur du problème. Ce qui, dans la vie du riche, l'a conduit à atterrir là où il a atterri. Les écrits de Moïse et des prophètes, c'était une manière de décrire la Bible à l'époque de Jésus, puisque le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. L'idée là, c'était que le riche n'avait pas écouté la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Alors qu'a priori, on a l'impression qu'il prétendait être quelqu'un de religieux. La preuve, c'est qu'il dit à Abraham, « Abraham, mon père, père Abraham », ce qui est une formule rituelle juive, traditionnelle, qui est encore utilisée aujourd'hui par les juifs quand ils parlent d'Abraham. C'est Abraham, notre père. Mais là, le cœur de son problème, c'était le problème de son cœur. Le cœur de son problème, c'était le problème de son cœur. Il avait fait semblant, mais au fond de lui-même et dans son mode de vie, il n'avait pas tenu compte de ce que Dieu voulait pour sa vie. Aucune générosité. Il avait simplement écouté ses désirs, son avidité. Son Dieu, c'était son plaisir, ses richesses, lui-même. Et même après la mort, il réclame que le pauvre vienne lui servir de l'eau, comme si les différences sociales étaient encore valables et que lui-même était encore au-dessus des autres, au sommet de l'échelle sociale. Alors que Lazare, lui, malgré ses conditions de vie très douloureuses et désespérantes, il avait fait confiance à Dieu pendant sa vie terrestre. Et c'était ça, la différence entre les deux. C'était ça qui avait déterminé leur destin éternel. Et c'est quelque chose qui est affirmé tout au long du Nouveau Testament. Si sur cette terre, on tient compte de Dieu, de la manière dont Dieu veut qu'on vive, après la mort, on sera avec Dieu. Même si sur cette terre, on a eu des conditions de vie compliquées. Et ça, c'est génial comme espérance. Ça donne un goût très différent à la vie. Qu'on ait une vie facile ou une vie difficile, ça change le goût de la vie. Mais si sur cette terre, on ne tient pas compte de Dieu, après la mort, on sera sans Dieu. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et j'espère que vous en êtes bien convaincus. Parce que sur cette terre, tout le monde peut bénéficier de la générosité de Dieu. Même ceux qui ne sont pas conscients de cette générosité, même ceux qui veulent consciemment la rejeter. Ce qu'on appelle en théologie la grâce commune. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Passer l'éternité sans Dieu, c'est un peu comme si on retirait l'oxygène de l'air. L'oxygène, on ne le voit pas. Et sur notre planète, même, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'existence de cet élément chimique. Mais si on l'enlève, l'air devient irrespirable. Un être humain qui est condamné à l'éternité loin de Dieu, il sera totalement déconnecté de la générosité de Dieu. Et ce sera horrible pour lui, comme l'air sans oxygène. À part que l'air sans oxygène, on meurt tout de suite. Mais l'éternité loin de Dieu, privée de sa bonté et de son amour, c'est une souffrance qui ne s'arrête jamais. Plus aucun espoir que la situation ne s'améliore. L'éternité sans Dieu et sans possibilité de revenir à Dieu, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. A l'inverse, l'éternité avec Dieu, c'est l'assurance d'une joie et d'une paix éternelle. Une joie et une paix qui commencent dès maintenant, dans une certaine mesure, hein, parce que bon, il y a quand même le mal et la souffrance dans notre monde, mais quand Jésus reviendra et qu'il n'y aura, plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance pour celles et ceux qui auront fait le choix de le suivre. Le riche avait eu une vie attirante, mais c'est Lazare qui a une éternité attirante. Alors ne nous trompons pas de vie, faisons le bon choix, dès maintenant, écoutons le Dieu de la vie. Écoutons le Dieu qui nous offre la vie éternelle. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Le mauvais riche souffre. Il a finalement compris que pour lui c'est fini. Car une fois qu'on est mort, on est mort, on ne peut plus revenir en arrière. Les bons choix, c'est pendant la vie terrestre qu'il faut les faire, et après c'est trop tard. Dans la Bible, les solutions rassurantes du purgatoire ou de la réincarnation, ça n'existe pas. Par contre, on a cette belle offre, espérance, que dans cette vie, il y a des tonnes d'occasions d'expérimenter une deuxième chance, une troisième chance, une millième chance de faire le bon choix. Mais après la mort vient le jugement définitif, et le riche, là, il l'expérimente à ses dépens. Et il veut éviter cela à ses frères, éviter qu'ils commettent la même erreur que lui. La solution que présente le personnage d'Abraham, c'est d'écouter Dieu, de tenir compte dès la vie présente de ce que Dieu a révélé sur lui-même et sur nous. Si on tient compte de ce que Dieu a révélé dans la Bible, alors qu'est-ce que ça va changer ? L'idée, c'est pas qu'on va être plus cultivé, plus intelligent et briller par notre grande science, être capable de dire « Ah, tel tableau là dans tel musée, ah, c'est une histoire de la Bible, je vais te raconter, puis hop, on a la gloire qui... on attire la gloire pour sur nous. » Non, c'est pas l'idée d'être plus cultivé. C'est l'idée d'être qu'on va devenir plus lucide, lucide sur nous-mêmes, lucide sur le monde. Dans sa parole écrite, Dieu nous aide à comprendre que nous sommes pécheurs. Il nous aide à comprendre que nous sommes mauvais et que nous avons besoin de lui pour vivre la vie que lui veut pour nous. Et c'est ce que le mauvais riche avait raté. Dans le contexte de la discussion de Jésus avec les pharisiens, qui est le contexte de cette histoire, les pharisiens prétendaient obéir à Dieu. Ils prétendaient étudier la loi de Dieu. Mais s'ils avaient vraiment tenu compte des écrits de Moïse et des prophètes, ils auraient reconnu qu'ils étaient eux-mêmes mauvais et qu'ils avaient besoin de Jésus, qu'ils avaient besoin du Fils de Dieu, au lieu de le critiquer et de critiquer ceux qui voulaient le suivre. Écoutons le Dieu de la vie et vivons comme il le souhaite, maintenant, pas demain, maintenant. Car il n'y aura peut-être pas de demain. Et il n'y a pas d'excuse, pas la peine d'attendre une apparition de Jésus en trois dimensions. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Alors cette phrase parle de l'hypothèse de faire revenir Lazare à la vie, mais ultimement, elle pointe vers la résurrection de Jésus. Et cette phrase est assez terrible, mais tellement lucide sur le cœur humain. La raison pour laquelle les gens ne croient pas en Jésus, c'est pas tellement parce qu'il y a un manque d'information. Alors bon, dans certaines régions du monde, c'est quand même un des principaux problèmes. Et c'est la raison pour laquelle il y a des organisations qui sont consacrées à la traduction de la Bible dans toutes les langues du monde. On a des camarades de classe, qu'on a mis Narine Sou et moi-même, qui se préparent à ça, partir pendant 10 ans dans un peuple pour traduire la Bible dans la langue de ce peuple pour qu'ils puissent avoir accès à l'évangile plus facilement. Mais en France, l'information sur Jésus, elle est globalement disponible assez facilement. Quand on fait des stands bibliques vers le campus de la Fac d'Orsay, par exemple, avec les groupes bibliques universitaires. On offre gratuitement l'information sur Jésus, des Bibles, des Évangiles, l'Évangile de Luc, sur lequel je suis en train de prêcher. Il y a toujours des gens qui prennent une Bible ou qui prennent un Évangile, mais la majorité des étudiants qui passent devant nous, bon, ils n'ont pas très envie de s'y intéresser. L'info est là, mais bon, ça ne les intéresse pas. La raison pour laquelle les gens ne croient pas, c'est pas non plus parce qu'ils n'ont pas vu de miracles suffisamment convaincants. Quand on lit les Évangiles en entier, on voit que Jésus a fait plein de miracles très spectaculaires, des aveugles qui se sont mis à voir, des paralysés qui se sont mis à marcher, de l'eau changée en vin, ça en plus ça devrait plaire à nous autres Français. Bref, plein de miracles spectaculaires, mais pour autant, beaucoup de gens refusaient de croire en lui. Et pourtant, c'était Jésus, il était là et il faisait les miracles lui-même. Donc, un peu plus facile de croire en lui peut-être que 2000 ans plus tard. Et quand Jésus est lui-même ressuscité et qu'il est apparu à 500 personnes, qui sont ensuite allées témoigner de sa résurrection, aux autres, nombreux sont ceux qui ont continué à refuser de croire. La raison pour laquelle les gens ne croient pas, c'est simplement parce que leur dévotion, leur adoration, va vers d'autres choses que Dieu, leur priorité. Vont vers d'autres choses que Dieu. Et ça les empêche de se repentir. Si vous avez une belle famille, une belle voiture, un bon travail, c'est facile que ce soit tout ça qui occupe tout votre cœur, toutes vos préoccupations, et qu'il n'y ait pas de place pour Dieu. Ou à l'inverse, si vous galérez à chaque fin de mois, et que vous êtes isolé ou que votre famille a explosé, c'est facile que ce soit tout ça qui occupe tout votre cœur, toutes vos préoccupations, et qu'il n'y ait pas de place pour Dieu. Et pas de place non plus pour se rendre compte qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Comme le disait un pasteur, le problème, c'est de ne pas se rendre compte qu'il y a un problème. Le problème, c'est de ne pas se rendre compte qu'il y a un problème. Et si vous n'êtes pas croyant, peut-être que c'est ce qui vous empêche de venir à Jésus. Mais si vous êtes chrétien, et c'est le cas de la plupart d'entre vous, vous savez sans doute que nous sommes aussi concernés. Les dangers dans lesquels le mauvais riche de la parabole est tombé, ils sont devant nous de la même manière. Nous pouvons facilement nous laisser dévorer par les préoccupations des plaisirs de ce monde, ou par les préoccupations des possessions de ce monde. Par exemple, nous pouvons passer tout notre temps libre, nos week-ends, à voyager pour notre bon plaisir, et nous négligeons de prendre le temps de servir le Seigneur en Église. Nous nous laissons stresser par le remboursement de l'emprunt de notre maison, de notre appartement ou de notre voiture, et nous négligeons d'être généreux avec les autres. Nous devenons les esclaves volontaires de notre entreprise parce que nous avons un sens aigu des responsabilités, et nous négligeons de passer du temps avec ceux dont nous devons prendre soin. Nous comptons chaque euro que nous dépensons parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent, et nous négligeons de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Des exemples parmi tant d'autres dangers qui nous guettent, qui me guettent. Et j'ai pris ces exemples parce que c'est toutes des choses dans lesquelles je suis déjà tombé à un moment ou un autre de ma vie. Mais la différence entre les chrétiens et des personnes qui ne connaîtraient pas Jésus, c'est que nous, chrétiens, nous avons la certitude que nous pouvons demander pardon au Seigneur et que nous pouvons essayer de changer avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'en réalité, un disciple de Jésus ne se retrouvera pas, jamais, dans la situation du mauvais riche de la parabole. C'est que si nous écoutons Dieu, nous savons que nous sommes faibles, nous savons que nous sommes vulnérables et fragiles. Nous savons que de manière naturelle, notre véritable Dieu, c'est nous-mêmes. Nous savons que nous avons besoin de Jésus, notre sauveur et notre guide. Nous avons la paix de savoir que nous pouvons à chaque instant, lui demander pardon. Lui qui a vécu la vie parfaite que nous sommes incapables de vivre, lui qui s'est sacrifié à la croix pour nous, pour que nous puissions connaître la joie d'être en relation avec le Dieu de la vie, et que nous puissions avoir ultimement la vie éternelle. Écoutons le Dieu de la vie, écoutons Jésus, celui que Dieu a ressuscité des morts, et mettons en pratique ses enseignements. Mettons en pratique ces enseignements, non pas pour être sauvés de la mort éternelle, mais parce que nous nous savons déjà sauvés grâce à l'œuvre de Jésus. Le mauvais riche n'a pas atterri en enfer parce que pendant toute sa vie, il avait méprisé le pauvre qui était à l'entrée de sa maison, Se préoccuper des pauvres, ça ne sauve personne. Il faut croire en Jésus. Et parce qu'on croit en Jésus, on se préoccupera de ceux qui sont dans le besoin. Ce sera un indice, parmi tant d'autres, que le Saint-Esprit est bien là, que Dieu est en train de nous transformer pour que nous apprenions à l'aimer lui et à aimer les autres. Alors, j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure qu'il faut écouter Dieu. Bien entendu, ne vous attendez pas à entendre la voix de Dieu dans vos oreilles. Alors, ça peut arriver, hein. Dieu fait ce qu'il veut, mais ça, il le fait de très 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 rarement. Hein. Depuis 2000 ans qu'il y a des chrétiens, statistiquement, ça arrive quand même pas très très souvent. Et ça arrive pas très souvent parce que Dieu a déjà beaucoup parlé par le passé. Et il a fait en sorte que ces paroles soient rapportées dans la Bible. Et la Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour notre foi. Alors mettons-nous à l'écoute de Dieu en lisant la Bible. Mettons-nous à l'écoute de Dieu en lisant ou en écoutant des enseignements sur la Bible. Ici même, le dimanche, ou chez vous, ou dans le RER, ou dans votre voiture, ou dans la salle d'attente chez le médecin. Les ressources sur la Bible n'ont jamais autant été disponibles que de nos jours. Acheter des livres, télécharger une prédication ou une conférence qu'on peut écouter dans les transports en allant au boulot, ça n'a jamais été aussi facile. Mais il faut faire attention quand même à qui on écoute. Parce que si les ressources sur la Bible n'ont jamais été autant disponibles que de nos jours, les mauvaises ressources sur la Bible n'ont également jamais été autant disponibles que de nos jours, malheureusement. Sur Internet, il y a plein de bonnes choses, mais il y a également beaucoup de sites qui racontent des choses fausses sur Jésus et sur la Bible, tout en donnant l'impression de dire des choses justes. Et les sites les mieux faits ne sont pas toujours les plus fidèles à la parole de Dieu. Jésus a mis en garde contre les faux enseignements qui nous détournent du vrai évangile. Donc si vous avez des doutes sur un site internet ou sur un livre que vous êtes en train de lire, n'hésitez pas à en parler avec mamie ou avec un des anciens de l'Église, et ils pourront vous aider à discerner les bons endroits où vous pourrez nourrir votre foi et les endroits ou les sites, livres ou autres, qui vaut mieux fuir. Pour conclure, ne nous trompons pas de vie, écoutons le Dieu de la vie. La vie, la vraie, celle qui vaut la peine d'être vécue, c'est celle qui est vécue avec Jésus, en totale dépendance de lui. Et c'est le chemin de joie que nous voulons suivre toute notre vie. Et c'est aussi ce que nous voulons annoncer au monde, où que nous soyons. Parler de Jésus pour que beaucoup puissent connaître cette joie du salut. Car il y a beaucoup de joie à se savoir pardonner, beaucoup de joie à goûter combien Dieu est bon avec nous. La prière est que Dieu, notre Père, nous aide à écouter notre Seigneur Jésus, et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions l'adorer lui, et rien d'autre, ni personne d'autre. Que sa grâce soit sur nous tous. Amen.
Je vous invite de prier avant de passer à la scène. Notre Dieu, je te remercie de cet appel qui nous est donné encore une fois de t'écouter, de ne pas nous tromper de vie, mais de vivre la vie qui vaut la peine d'être vécue avec toi. Et Seigneur, c'est vrai que pour ceux d'entre nous qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore choisi de te suivre, et voilà, cet appel est pour eux ce matin. Cet appel de se détourner de leurs préoccupations pour se tourner vers toi. Et pour nous qui avons déjà choisi, Seigneur, de te suivre, de t'écouter, aide-nous aussi à t'écouter toujours plus, à vivre une vie toujours plus en adéquation avec ce que tu nous demandes. Merci, notre Dieu, de cet appel qui résonne encore aujourd'hui. Amen. Je vais inviter. Du coup, oui.